La semaine dernière, on avait fait le voyage à Éphèse. Donc, c'est toujours sur la même côte. On va aller ce matin à Smyrne. Donc, un rappel pour ce que nous avions vu la semaine dernière, c'est que le livre d'Apocalypse, au fait, on a dit l'Apocalypse est une révélation. Donc, un dévoilement de Jésus-Christ destiné à éclairer et non à cacher. Et le livre est particulièrement donné pour encourager l'Église dans les derniers temps. Et le centre du livre n'est pas les événements futurs, mais la personne et la victoire de Jésus-Christ. Donc le livre d'Apocalypse va mettre en avant, effectivement, la personne de Christ. Souvent, on va se cantonner sur les événements qui se passent dans l'Apocalypse, mais ces événements-là, au fait, révèlent Christ en réalité. Et puis Jean est probablement exilé sur l'île de Patmos à cause de sa fidélité à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ. Donc c'est de Patmos, c'est à Patmos qu'il reçoit donc la vision et qu'il reçoit l'ordre de pouvoir écrire aux églises. Et donc la première église que nous avions vue, donc, c'était l'église d'Éphèse. Et les éléments qu'on a fait ressortir, c'est que les éloges ont été faits à l'église d'Éphèse. C'est une église travaillante, elle est attachée à la saine doctrine, elle sait discerner les faux enseignements, et c'est une église qui est persévérante. Donc elle reçoit effectivement les éloges, les encouragements du Seigneur à ce titre-là. Mais à côté de ces éloges-là, l'Église reçoit aussi un reproche qui lui est fait. On dit, elle a abandonné son premier amour. Donc le zèle certainement qu'elle avait, toute la motivation qu'elle avait, c'est-à-dire quand bien même qu'elle soit travaillante, attachée à la saine doctrine, il y a un bémol, quelque chose ne marche pas. C'est-à-dire elle a abandonné son amour premier qu'elle avait. Et l'appel qui lui a été fait, donc, c'était de revenir à son premier amour. Donc, revenir à son premier amour, dans les démarches, on avait parlé de se souvenir. Le Seigneur a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, déjà de se souvenir de là où l'Église est tombée, de se repentir et de revenir donc au Seigneur. Et l'avertissement qui était donné à l'Église d'Éphèse, c'est que s'il n'y avait pas de changement, elle perdrait sa place et son rôle de témoin lumineux. Donc ça, c'était concernant l'église d'Éphèse. Donc l'interpellation, quand on regarde ça, ce qui nous est fait, nous, à notre égard, en tant qu'église ou en tant qu'individu aussi, des fois, on peut être engagé dans les éloges qui ont été faites, mais auprès de ces éloges-là aussi, il peut avoir une difficulté, il peut avoir un reproche. Donc cela nous interpelle. Et aujourd'hui, nous voulons voir l'église de Smyrne. Donc, la ville de Smyrne était située, disons, à 60 kilomètres au rond-point d'Éphèse, donc au bord du golfe de la mer Égée. Et c'est un centre portuaire et commercial de grande envergure qui rivalisait avec Éphèse. Et là, on a ici l'Agora. L'Agora de Smyrne est l'un des mieux conservés du monde romain. Et puis, Smyrne est réputée pour ses rues pavées et ses ports actifs, qui en faisait donc un carrefour commercial majeur vers l'est. Donc on voit que Smyrne est au bord de la mer Égée, donc c'est un centre portuaire, donc un centre commercial où il y a beaucoup de trafic qui se font. Le sommet du mont Pagus, vu sur le golfe de la mer Égée, bâtiment formant donc la célèbre couronne de Smyrne, symbole de la grandeur et de la beauté de la cité antique. Donc, les habitants de Smyrne étaient tellement fiers de leur ville parce que c'était une ville qui était très développée, mais qui était développée et qui était portée sur la beauté. Donc, elle était appelée la couronne de la beauté pratiquement. Et au pied de la colline de Pagus s'adossait le temple de Zeus, d'Apollon, d'Escalucap et d'Épaphrodite. Et la splendeur des temples païens contrastait donc avec les humbles lieux de réunion chrétiens. Donc, on va voir que à Smyrne, effectivement, il y avait beaucoup d'adoration de Dieu. Hein? Donc, on avait le dieu Zeus, on avait Apollon, on avait Aphrodite et puis Escalus. Mais à côté de cela, il y avait une communauté chrétienne aussi qui se développait à côté. Donc, on va voir de grands temples, de beaux grands temples et tout, dédiés à ces dieux-là. Mais la communauté chrétienne était restreinte dans sa zone ou dans ses réunions, dans ses milieux de rencontres qui étaient vraiment, je dirais, très modestes comparé à ces temples qui étaient dédiés donc à ces dieux-là. Donc, lorsqu'on parle du temple Zeus, au fait, Zeus était considéré comme le Dieu du ciel, de la foudre, du tonnerre, de la loi et de la justice. Donc, considéré comme le roi des dieux. Et Apollon, au fait, Apollon nous dit que c'est le fils de Zeus. On dit Apollon, lui, c'est le dieu de la lumière, des arts et de la prophétie. Donc, imaginez des faux prophètes ou de fausses prophéties qui peuvent, comme on appelle ça, circuler ou dans la cité. Escalup, dieu de la médecine et de la guérison. En effet, on nous dit que Asmin, effectivement, était un grand centre de sciences médicales et puis de recherche aussi. Donc, on voit effectivement qu'ils vont dédier carrément un temple à ce faux dieu-là. Et Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté, de la séduction et de la fertilité. À Asmin aussi, Asmin, je dirais, magnifiait la beauté, hein, magnifiait la beauté. Donc, on va voir effectivement ces éléments-là. Et là, j'ai noté la cerise sur le gâteau et la construction d'un temple à l'empereur. C'est-à-dire tellement Asmin était reconnaissante, je dirais reconnaissance à Rome, ou avait une bonne relation avec Rome, qu'ils vont dédier un temple à l'empereur. Donc, si le temple est dédié à l'empereur, ça veut dire l'empereur va commencer donc à être adoré. Ils vont demander à ce que l'empereur soit adoré. Donc, pour un culte impérial sera imposé à tous les citoyens de Smyrne. À un moment donné, les citoyens de Smyrne, donc, il y aura donc un culte imposé pour l'adoration de l'empereur. Ça, c'est la monnaie, comme on a vu les monnaies à Éphèse, on a Smyrne aussi avec ça. Il y a la monnaie à Smyrne. On dit monnaie de Smyrne témoigna de son prestige, reflétant sa prospérité économique et son importance au sein de la province romaine d'Asie. Ça, c'est la nouvelle Smyrne. C'est-à-dire aujourd'hui, Smyrne existe, mais ce n'est plus Smyrne. Donc, la province de Smyrne aujourd'hui, connue sous le nom de Izmir en Turquie, est la troisième grande ville. Okay. Donc, si un jour ça vous dit d'aller visiter, d'aller en visite, je dirais, en Turquie, si vous arrivez à Izmir, c'est que vous êtes à Smyrne. Et c'est un centre économique majeur grâce à son important port, son tourisme, son industrie et son agriculture. Donc, aujourd'hui, c'est un centre qui est aussi développé. Mais, en passant, je voudrais faire noter que Smyrne a connu beaucoup de difficultés. Il y a eu, a été sous différentes dominations. Bien, je ne voudrais pas rentrer dans tout ce long détail-là, sinon ça me prendrait assez de temps. Donc aujourd'hui, la ville de Smyrne, qui est aujourd'hui la ville de Izmir, et puis des grandes villes développées aussi en Turquie. Mais l'origine du mot Smyrne, quand même. Donc le mot Smyrne dérive du grec Smyrna. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation ou pas, mais bon, tout comprend ça comme ça, qui veut dire myrrhe. Donc, la myrrhe est une résine au goût amer qui était utilisée pour faire du parfum et elle servait aussi d'antispasmodique et d'analgésique. Donc, c'est l'objet d'un grand trafic qu'elle donna son nom à la cité. Donc, Smyrne dérive donc de la myrrhe, OK. Et puis donc, c'est à partir de là, vu que là, il y avait un grand commerce au niveau du centre portuaire, d'Orient jusqu'à la mer Égée et tout. Et ils vont donner donc à cette ville-là, à cette cité, Smyrne, qui veut dire myrrhe en réalité. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit que la myrrhe a été plusieurs fois citée et utilisée aussi. Donc au calvaire, Jésus qui refuse le vin mêlé de myrrhe à titre de calmant, car il voulait souffrir à cause de nos péchés. On dit que c'était un analgésique. Donc, dans le vin, on avait donc mis la myrrhe pour l'aider à soulager ses souffrances. Mais il ne voulait pas. Il voulait souffrir jusqu'à l'extrême pour nos péchés. Et la myrrhe évoque aussi un sacrifice de bonne odeur. C'est aussi un symbole d'adoration. Parce qu'on a vu avec les mages, on dit qu'ils se prosternent devant Jésus pour l'adorer. On nous dit dans les carreaux, on dit qu'ils offraient de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, ça avait une valeur, la myrrhe aussi avait une valeur. Et Un dernier point que j'ai noté, c'est que Nicodème aussi apporta la myrrhe pour embaumer le corps de Jésus, marqué d'empreintes de la souffrance. Donc on voit que la myrrhe, des fois, elle symbolise la souffrance. La myrrhe va symboliser aussi l'humanité de Jésus. Et donc ce matin, nous voulons donc voir donc Smyrne. Apocalypse 2, 8 à 11, qui est notre texte de ce matin. Le texte nous dit, « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Bon, nous n'avons pas de données précises sur la fondation de l'église de Smyrne. On ne sait pas quand est-ce qu'on n'a pas de données assez précises là-dessus. Cependant, il nous est rapporté, selon l'histoire, le témoignage de Polycarpe, qui était disciple de Jean, mort martyr à l'an 165. OK? Bien, ici, on a 165 ou 156. OK? Voilà. Ben, c'est dans cette période-là, en tout cas, que on a pas la date précise de l'Église, mais on sait que Polycarpe était disciple de Jean et il est mort martyr à cette période-là. Et quand il mourait, il faisait partie d'un des responsables de l'Église de Smyrne et il serait mort autour de aux environs de 96 ans. Et on nous dit aussi, quand on fait la lecture, que Polycarpe était jeune à l'église de Smyrne. Donc, après cela, qu'il ait grandi. Et quand on devait le mettre à mort, on lui a demandé donc de renier. Il devait renier le Seigneur. Il a dit qu'il ne pouvait pas le renier parce qu'il a vécu avec lui pendant 86 ans. À peu près 86 ans. Et puis, donc, il ne peut pas le renier. Donc, on voit un martyr qui meurt certainement à 96 ans. Donc, si on fait un calcul, ça nous donne quand même une idée sur, je dirais pas la date même de la naissance de Smyrne, mais le vécu de Smyrne à peu près. Donc, Jésus révèle son identité dès le début de la lettre à l'ange de l'église de Smyrne. On avait noté la dernière fois que quand on parle de l'écriture à l'ange de l'église de Smyrne, il s'agissait des responsables de l'église de Smyrne. Donc, à quoi fait-il référence dans la présentation de son identité? Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je vous donne la parole. On dit à quoi fait-il référence dans sa présentation? C'est-à-dire, Jésus parle de lui-même. C'est-à-dire, mais en le faisant, qu'est-ce qu'il veut faire ressortir quand il se présente de telle sorte à l'église de Smyrne? Donc, il révèle en le disant qu'il est le Christ. Il est le Christ parce que c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, déjà là, il donne son identité à l'église de Christ, à l'église de Smyrne. Quoi d'autre qu'on pourrait noter? Amen. Donc, il se présente aussi comme le Christ, mais aussi comme celui qui a la domination, celui sur qui on peut compter, celui qui décide. Quoi d'autre? Sur le premier, le dernier. Donc, il révèle son éternité. Il est le premier, le dernier. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est-à-dire, en tout temps, il est. Donc, il révèle effectivement, s'adressant à l'église de Smyrne, qu'il est éternel. Il est Dieu, il est éternel. Et le deuxième point, effectivement, comme les frères et sœurs l'ont dit, effectivement, ça montre non seulement qu'il a la domination, mais qu'il est le Christ, c'est-à-dire il a dominé la mort. Donc, il vient donner une espérance, effectivement, à son Église ici. Ici, il affirme qu'il est éternel et Dieu souverain. Quelqu'un pourrait prendre Ésaïe 44, le verset 6, s'il vous plaît. Et puis, deuxièmement, il rappelle la résurrection, pilier de la foi de ceux qui croient en lui. Ésaïe 44, verset 6. Amen. Il est le premier, le dernier. Hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Donc, il s'adresse à Smyrne, où on nous dit qu'à dans la ville de Smyrne, on avait une multitude de dieux existants. Et il leur dit, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis le premier et le dernier. Et on a dit, le deuxième point, effectivement, rappelle donc sa résurrection. Or, la résurrection, comme on dit, c'est le fondamental de notre foi, c'est notre espérance. Donc, il le rappelle effectivement aux chrétiens de Smyrne. Et puis, en troisième point, en révélant son identité à l'église de Smyrne, le Seigneur prépare l'église à ce qu'elle doit vivre, comme Jean-Luc l'a dit tantôt. C'est-à-dire, non seulement il réconforte l'église par son expérience de souffrance, c'est-à-dire, il est mort et puis on sait que sa mort n'a pas été une mort de gaieté, hein. C'était plein de douleurs, de souffrances. Donc, il rappelle cela. Donc, il réconforte l'église parce qu'il a lui aussi connu la souffrance, il est passé par là. Et puis, il rappelle à l'église qu'il est vivant pour toujours. Il est ressuscité, il est le ressuscité. Et il rassure l'église. Elle peut lui faire donc confiance. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Lorsqu'on lit le verset 9 nous présente un peu la situation de l'église de Smyrne. Le Seigneur dit, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Donc ici, l'élément qui ressort ici, c'est la persécution. Ben, l'Église, le Seigneur connaît, il dit qu'il connaît la situation des chrétiens de Smyrne, qui vivent la persécution, qui vivent les calomnies des juifs qui sont appelés synagogue de Satan. Donc, la synagogue de Satan, j'ai mis ennemi des enfants de Dieu, parce que c'est des juifs, on se dit que non seulement ils ont été appelés, ils sont appelés normalement à connaître, à rencontrer Dieu, mais en réalité, ils se détournent de Dieu, ils ne le reconnaissent pas. Donc ceux-là vont verser dans les calomnies pour accuser effectivement ces chrétiens-là. Et à Smyrne aussi, il y a une opposition religieuse, notamment plusieurs divinités. Et puis, on a le temple de l'empereur Tibère, donc qui est un lieu d'adoration. Et la pauvreté matérielle aussi, qui est due à leur refus de se compromettre ou à la calomnie des Juifs. Nous avons vu effectivement que dans ces zones-là, il y avait beaucoup de corporations. Donc, il fallait appartenir à une corporation ou bien il fallait appartenir à un groupe pour être épanoui. Or, ici, les chrétiens devaient être donc marginalisés, mis de côté, parce que, un, ils n'adoraient pas toute cette divinité-là. Et puis, de deux, il y avait la confrontation avec leurs frères juifs qui devraient plutôt peut-être les accompagner, mais il y aura donc une confrontation parce que ceux-ci s'opposaient. Ils n'avaient pas la même adoration. Donc, ce sont ces éléments-là que le Seigneur ici donc fait ressortir. Et il dit qu'il connaît leur situation. Mais connaissant leur situation, la question qu'on pourrait se poser, mais pour le Seigneur n'avait-il pas la capacité ou l'autorité même de pouvoir arrêter cela? Parce qu'on l'a lu tantôt, il dit qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Il est le premier et le dernier. Et puis, de façon ferme, il dit qu'il est le seul vrai Dieu. Mais Dieu qui sait tout, pourquoi dans cette situation-là, il ne vient pas les aider? Pour les éprouver aussi, d'accord? Mais est-ce que Dieu leur donne des issues de sortie? Dieu leur donne les issues de sortie, la persévérance. Et puis l'élément que le Seigneur leur donne, c'est qu'en leur disant qu'il connaît, le Seigneur veut leur dire qu'il n'est pas surpris par ce qui arrive. Il n'est pas surpris, c'est des situations qu'ils vivent. Mais lui sait, il le voit. Donc, c'est pour ça qu'il vient leur parler, afin qu'ils soient préparés. Donc, il vient les préparer à faire face à cette tribulation qu'ils vont vivre. Et on dit la situation des chrétiens de Smyrne n'était pas étrangère au Seigneur. Donc, ils connaissaient leur situation. Voici pourquoi il leur dit, je connais tes tribulations. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc, il reconnaît leur richesse en bénédiction spirituelle, bien que matériellement pauvre. Et donc, on nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur connaît cela. Deuxièmement, l'église de Smyrne était pauvre aux yeux des hommes, mais riche devant Dieu. Jacques 2, verset 5, quelqu'un pourrait le lire. Donc, le Seigneur connaît l'affliction et la pauvreté de son église. Il n'est pas surpris par ce qui arrive. Jacques 2, 5. Amen. Donc, ici, on voit dans la démarche qui est donnée ici, c'est que l'objectif de Dieu est différent de l'objectif terrestre. C'est-à-dire la bénédiction réservée aux chrétiens de Smyrne, ce sont les bénédictions spirituelles. C'est à cela que le Seigneur les appelle. C'est-à-dire, c'est le plus important, ce n'est pas les bénédictions matérielles, visibles, que vive la population ou que connaît la population de Smyrne. Mais ce qui est important, c'est sa persévérance, sa relation avec Dieu pour aboutir aux bénédictions spirituelles. Amen, c'est ça. Donc, c'est à cela que le Seigneur veut les amener. Hein. Donc, pour éviter les compromissions, pour éviter effectivement qu'ils se détournent dans cette épreuve-là, le Seigneur vient les rassurer, il vient leur montrer même, je dirais, la voie à suivre. C'est-à-dire l'attitude à adopter. Il dit, je connais ces choses-là. Je sais que tu vas vivre des tribulations encore. Et on va y arriver. À la fin, il va dire, vers la fin, il va dire, sois fidèle. Sois fidèle parce que ce qui t'attend, c'est l'éternité. Ce qui t'attend, c'est la vie éternelle. Et Jean 16, le verset 33 nous dit, Jean 16, le 33 nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Est-ce que cette adresse-là à l'église de Smyrne nous concerne aussi, nous? Donc, c'est-à-dire, elle nous concerne aussi. Mais le Seigneur dit qu'il a vaincu le monde. Il connaît effectivement ces situations-là. Ça, rien ne le surprend. Et il vient rassurer donc l'église de Smyrne afin qu'elle tienne bon. C'est-à-dire dans ces moments difficiles, là, dans ces moments de douleur. On a parlé tout à l'heure de martyr. Mais je veux dire, quand on meurt martyr, ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas joyeux. C'est-à-dire, on ne vient pas et puis, ouais, moi je veux être martyr. Mais le Seigneur dit, tiens bon, parce que ce qui t'attend est plus grand que ce que tu vis. Le verset 10 nous parle donc des souffrances, effectivement, des chrétiens de Smyrne. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, l'Église est avertie des épreuves à venir, hein. L'Église, encore aujourd'hui, est avertie des épreuves à venir. Et l'on passe de la pauvreté matérielle à une attaque physique, psychologique, donc qui est la prison, qui serait même pour certains la mort. Ici, on nous dit clairement que le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Donc l'idée, ici, c'est toujours une épreuve. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, on essaie de regarder, c'est-à-dire on a toutes les divinités qui se présentent, mais lorsque toute cette divinité se présente, Dieu y sort ou Jésus sort et puis dit « Je suis le seul vrai Dieu ». En dehors des autres dieux, là, il n'y a point de Dieu. Alors, on passe à une autre étape, du moins. Donc, pendant qu'on nous dit que lorsqu'on fait la comparaison des dieux, on a l'Éternel qui est le Dieu au-dessus de tous les dieux, la stratégie change. On va attaquer le corps. Un peu comme Satan disait à Dieu, à l'endroit de Job. Mais tu penses que ce gars-là, il était vraiment fidèle? Mais il était fidèle parce que regarde tout ce que tu lui as donné. Mais laisse-moi le toucher un peu, tu vas voir. Dieu dit, mais va, touche-le, mais ne touche pas à sa vie. Donc, la maladie va venir, le deuil va venir, c'est bien matériel, tout ça-là, il va les perdre. Mais tout ça, c'était des épreuves qu'il vivait. Donc, on voit qu'une autre étape, c'est-à-dire le combat spirituel, il change de forme. Donc, on va l'attaquer physiquement. Donc, ici, les chrétiens sont attaqués physiquement. Mais l'objet de tout ça, là, c'est d'apporter de la démotivation, c'est d'apporter le découragement, c'est de faire en sorte que les chrétiens puissent renier, effectivement, leur Dieu. Et hein, le Seigneur précise l'origine de la persécution. Il est clair, ce ne sont pas les gouvernements. Il est clair, ce ne sont pas les voisins, ce ne sont pas même les, je dirais, les prêtres des autres divinités, mais c'est le diable. Donc, c'est il précise que c'est le diable, effectivement, qui a l'origine de cela. Mais qu'est-ce que le diable il va faire? Derrière les persécutions des chrétiens, se cache le diable qui va orienter les lois et les décisions. C'est-à-dire que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans les entreprises, partout où on est, c'est le diable qui va susciter effectivement ces choses-là. Comme Éphésiens nous dit aussi, on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les dominations, les autorités. La durée de 2 jours qui est précisée ici, selon différents commentateurs, c'est une certaine période. Mais ici, l'idée derrière les 10 jours, pour dire effectivement que c'est un terme qui est défini. C'est un terme qui est, c'est une persécution qui va durer sur un temps précis. Certains vont même comparer les 10 jours à peut-être 10 jours, à 10 mois, à 10 ans. C'est pas précisé de façon claire là-dessus. Mais seulement, là où ils sont tous d'accord, je dirais, c'est que les 10 jours représentent une durée qui a un terme, qui est fixée. Okay? Après, on nous dit, donc il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Donc ici, on voit l'objectif du diable, le but du diable est d'éprouver la foi des croyants, les amenant à se compromettre et à renier Dieu. Quand je suis arrivé là, je me posais une question qui souvent va venir. Est-ce que Dieu nous éprouve? Est-ce que Dieu nous tente? Parce que des fois, on va dire que le Seigneur va nous éprouver, effectivement, va nous tenter pour qu'on puisse grandir. Or, Jacques 1, verset 1, 13, nous donne la réponse à cela. On dit, Dieu n'est pas tenté par le mal. Amen. Parce que quand Dieu, si nous on est éprouvé par Dieu, ce n'est pas pour nous faire tomber, mais c'est pour nous faire grandir. Mais quand on est éprouvé par le diable, c'est pour qu'on puisse abandonner le Seigneur. Amen. L'épreuve des chrétiens pourrait venir du fait qu'ils refusaient de participer au culte de l'empereur. On dit au cours des cérémonies, lorsqu'il y avait le culte de l'empereur, quand c'était imposé, on dit au cours des cérémonies, chaque citoyen devait jeter quelques grains d'encens sur un autel devant le buste de l'empereur et proclamer que César était Seigneur. Donc les chrétiens devaient pouvoir le faire. Puisque tous les citoyens le faisaient, les chrétiens étaient amenés à le faire. Et lorsque les chrétiens refusaient de le faire, il y avait donc une conséquence à cela. Okay, donc la question est posée, est-ce qu'il y a un moyen de distinguer effectivement si une épreuve vient de Dieu ou bien elle vient du diable? Donc le frère dit, quand on vit une épreuve, pour nous, il est difficile de distinguer l'origine. Amen. Tantôt on a noté effectivement qu'il est tout puissant dans toutes les démarches qu'on a apportées. Lorsqu'on va lire Jean 10, le verset 13, 1 Corinthiens 10, 13, pas Jean 10, 13, j'étais trop dans Jean. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc Dieu nous donne déjà, c'est-à-dire en face de la tentation ou de l'épreuve, il y a des moyens que Dieu nous donne d'en sortir. Il nous donne les moyens. Et l'un des moyens qu'il va nous donner, comme il le dit à l'église de Smyrne ici, c'est la prévision qu'il leur donne, c'est qu'ils puissent s'appuyer sur lui. Ça, c'est l'un des moyens que Dieu va donner. C'est-à-dire, dans la tentation ou dans l'épreuve, le moyen que Dieu nous donne de nous en sortir, c'est que sans lui, on ne peut rien faire. C'est qu'on puisse s'appuyer sur lui. Ça, c'est le premier élément que Dieu va nous donner pour qu'on puisse faire face à l'épreuve ou à la tentation. Et lorsqu'on lit Jacques, on avait dit Jacques 2, le verset... on va lire Jacques 1 déjà, même au verset... Jacques 1, verset 2, qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Donc, diverses épreuves auxquelles on peut être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parce que dans l'épreuve, on peut faillir. Mais l'épreuve qu'on vit doit pouvoir nous amener à être patients. Donc ici, dans ce cas ici, quand on regarde, on va voir effectivement que le but de l'épreuve, quand le but va arriver, c'est-à-dire il y a une démarche à suivre. C'est-à-dire l'épreuve va nous former à la patience. Et puis cette patience-là, en la vivant, va nous amener à ne pas faillir. Donc à être des hommes parfaits, des hommes faits à la gloire de Dieu. Donc ici, lorsqu'on vit une épreuve, l'idée, c'est que ce qu'il faudra regarder dans l'épreuve, ce n'est pas la douleur de l'épreuve, ce n'est pas la souffrance de l'épreuve, mais ce qu'il faudra regarder dans l'épreuve, c'est de voir comment Dieu se glorifie, comment Dieu nous aide à nous en sortir. Voilà pourquoi on dit qu'il n'y a pas de tentation qui nous survienne, qui soit au-dessus de nos forces. Mais en face de la tentation, Dieu nous donne les moyens d'en sortir. Maintenant, est-ce que nous voyons les moyens que Dieu nous donne d'en sortir? Mais si on s'apitoie sur notre sort, si on s'apitoie sur, je veux dire, sur la difficulté dans laquelle on vit, si on s'apitoie sur ces éléments-là, effectivement, on perd la délivrance que Dieu peut nous apporter. Voilà pourquoi on va chanter contre les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire, dans l'épreuve, dans les difficultés, est-ce que Dieu il y a des bienfaits de Dieu qu'on peut compter? Donc, ça sont des éléments qui vont nous aider à pouvoir nous en sortir. Donc, si on revient à l'église de Smyrne ici, c'est-à-dire le Seigneur annonce effectivement que des difficultés vont arriver. Mais les chrétiens de Smyrne étaient libres de dire, bon, ok, nous on ne choisit pas de souffrir. On choisit de se compromettre. On choisit d'abandonner Dieu. Ils auraient pu faire, c'était leur choix. Mais malgré cela, ils vont dire qu'on s'appuie sur le Seigneur. On choisit de s'appuyer sur le Seigneur pour nous en sortir. Pour revenir à Jacques 2, le verset 5, il dit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» Donc, c'est-à-dire, quel était l'objectif qui était visé ici? L'objectif visé ici, c'est que le plus important, ce n'est pas les épreuves qu'on vit, ce n'est pas la tentation que vous vivez, mais le plus important, c'est la vie éternelle qui vous attend. Et le 1 au verset 13, Jacques 1, verset 13 nous dit « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. » Et lorsqu'on continue, il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » Donc ici, quand on regarde les objectifs du diable, ici, c'est l'idée du diable, c'est que c'est qu'on puisse renier le Seigneur. Et puis quand on a parlé du cas de Job, quand on regarde la conversation, elle est claire. C'est-à-dire, le diable, il vient, Satan, il vient avec un esprit déjà par rapport à Job. Et la question même qu'il pose, il dit, mais crois-tu, je paraphrase un peu, hein, crois-tu que Job était fidèle parce qu'il t'aime trop? Non, il était fidèle parce que tu lui as donné des biens, c'est-à-dire des biens terrestres. Mais Job, lui, ce n'est pas les biens terrestres. En même temps qu'il dit, mais c'est vrai, autant Dieu m'a donné les biens terrestres, mais certainement aussi à des biens spirituels que Dieu me donne. Donc, son attachement au Seigneur n'était pas seulement lié aux biens terrestres que Dieu lui avait donnés. Mais quand on voit l'objectif qui était visé derrière, c'était que Job abandonne le Seigneur. C'était ça l'objectif du diable. Ça va, plus ou moins, on a parcouru un peu. C'est bon? Merci. Donc ici, on parlait donc du culte à l'empereur, c'était un peu ça. Donc il fallait que les chrétiens puissent venir, je dirais, adorer César. Mais les chrétiens n'allaient pas le faire. dont la persécution va commencer à se multiplier. Et il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc ici, le Seigneur dit, quel que soit ce que vous allez vivre, sois fidèle, soyez fidèle jusqu'à la mort. Quand tu lis ça, sois fidèle jusqu'à la mort, tu dis, mais ça devait être difficile pour eux. Parce que ces épreuves devraient pouvoir amener certains d'entre eux à la mort. Ouais, comme Polycarpe. Quelques-uns devraient aller à la mort et puis ils sont conscients de cela. Mais quelle était leur force? Ça me permettra de répondre encore à la question que tu as posée. Quelle sera donc leur force? D'où ces chrétiens-là? Quels étaient les moyens que le Seigneur leur donnait pour qu'ils s'en sortent? Amen. Donc, l'un des moyens que Dieu nous donne pour nous en sortir, c'est sa présence, c'est son appui. Quoi d'autre? La persévérance. Donc, Dieu les encourage à être fidèles, à persévérer. Et l'un des moyens, je dirais, excellents que le Seigneur leur donne même, c'est la promesse qu'il leur donne. Il promet qu'il dit, sois fidèle. Et puis, si lui qui sait tout, lui qui est Dieu, vient leur révéler cela, vient leur dire ce qu'ils vont vivre. C'est des promesses. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les promesses du Seigneur? Et puis c'était ça la force de ces chrétiens-là. Parce qu'ils s'appuyaient effectivement sur les promesses du Seigneur. Non seulement sur les promesses du Seigneur, mais déjà même sur l'expérience vécue des autres aussi. L'expérience vécue des autres était leur force. Donc ils pouvaient s'appuyer sur ça pour renier effectivement les propositions pour renier l'adoration des faux dieux et rester attachés, effectivement, à leur Dieu. Verset 10 à 11, Jésus promet une récompense aux chrétiens de Smyrne. Il parle de la couronne de vie, et la couronne de vie qui est une image de la vie éternelle. J'avoue que quand j'ai lu là, je suis arrivé, la question qui m'est venue, j'ai dit, ben, ça, c'est la promesse. S'ils ne sont pas fidèles, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils perdent effectivement cette promesse-là? Et puis à quoi était rattachée cette promesse-là? Cette récompense était du moins rattachée à leur fidélité sans borne au Seigneur. Donc il leur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et leur force donc venait de, comme on l'a dit tantôt, leur force venait de l'espérance dans les promesses du Seigneur. Parce qu'ils étaient attachés effectivement à ces promesses-là. Et ils avaient l'assurance d'une issue victorieuse dans l'épreuve. C'est-à-dire, le Dieu qu'ils servent est leur Dieu, il est tout-puissant, il est au-dessus de tout, mais c'est lui qui leur parle, c'est lui qui les rassure. Donc, il s'appuie sur les promesses qu'il leur fait, mais Dieu, il sait ce qui va arriver. Donc, il prépare les moyens déjà pour les aider à pouvoir donc s'en sortir. Donc, eux, pour ces chrétiens-là, quelles que soient les situations, une porte va s'ouvrir. Dieu est avec eux. Il y a une issue victorieuse. Mais est-ce que l'issue victorieuse pour eux, c'était de ne pas mourir? Est-ce que l'issue victorieuse pour ces chrétiens-là, c'était que, je dirais, un ange descende du ciel et puis arrête toutes les persécutions par lesquelles ils passaient? Ça pouvait être ça. Dieu était capable de faire cela. Mais ce n'était pas là l'issue victorieuse qu'ils attendaient. Pour eux, l'issue victorieuse, c'est la gloire qui leur est promise. Et c'est dans cela qu'ils mettaient leur force. Donc, en face de l'épreuve, en face de la tentation, il y a une issue victorieuse. C'est que Dieu nous demande d'être fidèles. Soyons fidèles. Et nous allons avoir la gloire avec lui. Ils avaient aussi le secours, l'assurance du secours de l'Éternel. Prenez le cas d'un gars comme Étienne. On dit, pendant qu'on le lapide, pendant que les gens pensent qu'ils sont en train de lui faire du mal, en train de le faire souffrir, il est fidèle. Je dirais même à la rigueur, s'il n'est pas en train de chanter les louanges de son Dieu. Donc, parce que pour lui, il y avait aussi une issue victorieuse. Donc, l'issue victorieuse n'est pas forcément pour nous, je veux dire, l'arrêt d'une épreuve, l'arrêt d'une souffrance, mais l'issue victorieuse ici, c'est la vie éternelle qui leur est promise. La couronne de la vie. Voilà, c'était ça l'issue victorieuse. Donc, pour rien au monde, ces chrétiens de Smyrne, là, j'imagine que c'était certainement une petite église en face de gros et de grands temples beaux et mignons, une petite église, mais qui résiste, mais qui est persécutée. À la rigueur, on aurait pu la négliger. Oh non, c'est juste un petit endroit, mais c'est parce qu'ils avaient un impact. Et l'impact était non seulement physique, visible, mais il était spirituel. Et ils avaient l'assurance du secours de l'Éternel. Ils s'appuyaient sur le Seigneur, comme on l'a dit. Et puis, la question qui vient, est-ce que cette lettre est-elle d'actualité aujourd'hui et comment peut-elle nous aider? Donc, du singulier au pluriel, c'est le corps et les membres. Hein? Le corps, les yeux, du moins la bouche, le nez, tout ça en forme, tout ce même corps. Donc, c'est l'Église qui souffre à la fois et c'est l'Église qui doit être fidèle. Oui, André, tu voulais dire? Désolé. OK. Donc, Philippiens 4, 13. Donc, les chrétiens de Smyrne se fortifiaient par Dieu. Amen. Et ça, donc, c'est effectivement, la lettre, du moins, s'adresse encore à nous aujourd'hui, bien qu'elle soit adressée à l'Église primitive. Et fortement, elle nous aide déjà dans sa lecture, dans les dispositions que Dieu prend même déjà pour qu'on puisse effectivement nous préparer à ce qui arrive. Et puis, on ne sait pas ce qui arrive, hein, mais Dieu lui sait ce qui arrive. Dieu, il sait ce qui arrive. Et Apocalypse 1, le verset 8 encore, que je vais relire, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, il marque encore qu'il est tout-puissant, que rien ne lui échappe. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais c'est lui qui donne les dispositions ici pour qu'on prenne les moyens pour arriver à la gloire qu'il prépare pour nous. Et comme on dit, Jésus-Christ n'est pas venu juste mourir à la croix comme ça, mais il est venu mourir à la croix pour qu'on bénéficie d'une grâce. Et ce pourquoi il est venu mourir, c'est pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Donc effectivement, cette lettre s'adresse à nous encore aujourd'hui. Et puis, elle est utile pour notre croissance, pour notre développement. La lettre à l'église de Smyrne nous concerne encore aujourd'hui. Elle s'adresse à nous. Et le Seigneur nous rappelle quelle est notre espérance pour nous encourager à la fidélité. Parce qu'on voit ici, il encourageait son église à la fidélité. Malgré ce que vous allez vivre, malgré les difficultés que vous allez connaître, les tribulations, les persécutions, malgré tout ce que vous allez vivre, soyez fidèles. Pourquoi soyez fidèles? Il dit, soyez fidèles parce que je suis avec vous. Ou la question, c'est comment être fidèle? Ben, on peut être fidèle lorsque Dieu est avec nous. On peut être fidèle lorsqu'on s'appuie sur lui. On peut être fidèle en le prenant pour ressources, parce que c'est lui qui nous donne les ressources. On ne peut pas être fidèle de par notre propre force. On ne peut pas être fidèle de par nos propres capacités. Mais on peut être fidèle par la capacité que Dieu produit en nous. Amen. Le vainqueur est celui qui restera fidèle au Seigneur malgré les persécutions. Ici, j'ai certainement des mots qui m'ont sauté. Malgré les persécutions et les tribulations qu'on pourrait vivre. Okay? Donc, celui qui nous a aimés nous rend plus que vainqueurs. Donc, c'est Dieu qui nous rend plus que vainqueurs. Amen. Et on pourrait donc lire Romains 12, du verset 1 à 2. Celui qui le trouve peut le lire, s'il vous plaît. Donc, c'était là l'exhortation ou la vie des chrétiens de Smyrne. C'est-à-dire ne pas se conformer au siècle présent. C'est-à-dire, quels que soient les risques qu'ils avaient, ils refusaient de se conformer au siècle présent. Ils refusaient de se conformer, je dirais, à leur siècle, si je veux repartir à eux directement, pas à nous. Ils refusaient de se conformer à ce que leur environnement leur proposait. Mais ils voulaient rendre effectivement un culte raisonnable, agréable, un culte vivant et sain. Alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Donc, on voit que tous ces mots alignés là, ce ne sont pas des mots, je dirais, joyeux. Hein? On parle de la tribulation, on parle de l'angoisse, mais quelqu'un qui est angoissé, des fois, ça aboutit au suicide. Hein? Tellement l'angoisse est énorme. Mais les gens n'ont pas de ressources, ils vont donc s'éloigner. La persécution, on en a parlé. Et puis, autour de nous, on a beaucoup de frères, dans beaucoup de pays qui vivent cette persécution-là. Et, ou la faim même, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Donc on voit que c'est des mots qui ont de la valeur, qui sont des fois difficiles à supporter dans la pratique. Mais est-ce que la question qui nous est posée, est-ce que ce sont ces choses-là qui vont nous séparer de l'amour de Christ? Et selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais c'est à cause de qui? Le toit ici, il est donné pour qui? Mais c'est à cause de Jésus. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc quand on voit tout ce qui est là, c'est-à-dire c'est l'amour de Dieu qui nous garde. Quand on voit tout ce qui est là, c'est le Tout-Puissant, celui-là même qui se déclare Tout-Puissant, c'est lui qui nous garde. Et quand on regarde le texte de Romains, on voit effectivement que, je dirais, tous les royaumes, toutes les autorités, toutes les puissances rassemblées dans ce texte-là, c'est-à-dire toutes les forces qu'on veut rassembler dans ce texte-là, ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je ne sais pas si vous avez des éléments à apporter sur l'étude de ce matin. Si on voit effectivement que le Seigneur encourage son Église, le Seigneur qui sait tout, donne les directives à son Église afin que son Église puisse lui rester fidèle. Ça aurait été une grosse surprise pour l'Église de Smyrne de voir que subitement, des persécutions s'abattent sur elle, mais Dieu prépare son Église en l'avertissant, comme Jésus-même l'a fait aussi quand il parla à ses disciples. C'est-à-dire, dans toutes les bénédictions qu'il citait, il a eu la persécution. Donc, on doit être prêt à ce qui pourrait donc arriver. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être fidèle. Amen. S'il y a des commentaires, des additifs, vous pouvez les apporter. Jean, on en a parlé la dernière fois. Jean a-t-il écrit les lettres en 7 exemplaires, c'est-à-dire à chaque église, c'est ça? À chaque église ou bien... Oui, vas-y. Donc, la sœur répond pour dire effectivement, il a fait la lettre, ça a été envoyé dans chaque église. Mais livre entier ou lettre particulière? Mais moi, l'élément d'ébauche de réponse que je vais apporter... C'est qu'on nous dit, écris à l'ange de tel. Est-ce qu'il prenait la lettre, je vais dire, à l'ange d'Éphèse, à l'église d'Éphèse, si vous voulez, et puis ça, c'est pour l'église d'Éphèse, il envoie à l'église d'Éphèse. Est-ce qu'il prend une lettre, il écrit à l'église de Smyrne, il envoie à l'église de Smyrne. Est-ce qu'il prend une lettre, il écrit à l'église de Pergame, voici ce que le Seigneur dit de toi, Pergame, et puis il envoie. Mais la question derrière ça, moi, qui me vient, est-ce qu'une lettre qui est adressée à Smyrne, dois-je l'adresser à Éphèse ou dois-je l'adresser à Pergame ou à Laodicée ou à... Oui, vas-y. Voilà, c'est ça. Donc, un peu comme la sœur Nicole l'a dit, c'est-à-dire c'est une lettre qui est écrite, mais qui est distribuée effectivement dans chacune des églises. Mais la particularité, c'est que les églises avaient leur particularité. Les églises avaient leur particularité. Donc, à chaque église, sa particularité. Voilà, à chaque église, sa particularité. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut s'en tenir. C'est bon? C'est-à-dire, à Smyrne, c'est vrai que peut-être les chrétiens de Smyrne vont lire peut-être la lettre à Éphèse, peut-être pour en tirer des enseignements. Comme nous sommes en train de lire Smyrne. Moi, je ne connais pas Smyrne. Mais nous sommes en train de lire Smyrne, la lettre à l'église. Est-ce qu'elle est utile pour l'église de Rosemont aujourd'hui? Est-ce que la lettre s'adresse à l'église de Rosemont encore aujourd'hui? Elle s'adresse à l'église de Rosemont aussi aujourd'hui. Donc, en même temps que c'est une lettre qui était destinée, il y avait des lettres qui étaient destinées à, à des églises particulières, mais qui concernait aussi la vie de toutes les églises. Ici, quand on a parlé de écrit à l'ange, on a dit que l'ange ici représentait les responsables, on va dire le responsable de l'église. Donc, les pasteurs et tout, mais ils avaient la responsabilité d'apporter l'enseignement, parce que c'est eux qui apportent l'enseignement, c'est eux qui vont éclairer les membres de l'église. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire, si l'enseignement est donné, si l'enseignement n'est pas donné en ce moment, on dira que l'Église a reçu, les responsables ont reçu le message, mais ils ne l'ont pas transmis. Ils sont responsables parce qu'ils n'ont pas transmis. Mais s'ils l'ont transmis, que le chrétien il fait ce qu'il veut, le chrétien est responsable. Vous comprenez un peu? Donc ici, parlant de responsabilité, je veux dire, on pourrait le situer à différents niveaux. Okay. Merci pour vos différentes contributions. On va prier pour demander au Seigneur de nous donner d'être fidèles, parce que c'est l'exhortation qu'il apporte effectivement à son Église, c'est-à-dire quelles que soient les difficultés, quelle que soit la persécution ou quelles que soient les difficultés, les tribulations par lesquelles on pourrait passer, que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir tenir ferme et puis de saisir les opportunités d'issue de victoire qu'il met devant nous, de pouvoir les voir et puis de pouvoir les saisir. Priez qu'il nous donne de tenir ferme, d'être attaché à sa parole, parce que l'église de Smyrne était attachée à la parole du Seigneur aussi et faisait confiance à celui qui est le premier, le dernier, le tout-puissant.